Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, on parlera notamment de la situation dans les EHPAD. Les clusters s'y multiplient, 50 cas confirmés à Roanne, 54 à Bourges, dans l'un des plus grands EHPAD de France. Les professionnels lancent, on l'entendra, un cri d'alarme. Alors faut-il reconfiner ? Quels conseils si vous allez rendre visite ce week-end à quelqu'un de votre famille ? On posera la question à Jérôme Guedj, il est en charge d'une mission auprès du gouvernement sur le sujet. À l'Assemblée nationale, c'est un voile qui suscite la controverse. Des députés claquent la porte en voyant arriver une jeune femme portant le hijab. Le débat reprend de plus belle, on en parle avec les grandes voix à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, c'est le club des idées d'Europe Soir. Votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change. Ce soir, la vélomania au programme. Et si on abandonnait nos voitures pour une bicyclette ? Les ventes explosent partout en France. Plus qu'une mode, c'est un phénomène. Alors le vélo au quotidien peut-il conquérir les campagnes ? Et pourquoi pas ? On en parlera tout à l'heure avec nos invités. En attendant de pédaler, eh bien c'est l'heure des infos avec le journal présenté ce soir par Carole Ferry, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique proscrite après 20h.
Fini donc les apéros sur la plage après 20h. Les nouvelles règles anti-Covid sont en place à Nice.
Un nouveau cluster dans un EHPAD. En 48 heures, 6 résidents du même établissement ont succombé au virus dans la Loire.
Au procès des attentats de janvier 2015, témoignage d'un homme qui a fait face à Hamedi Coulibaly.
Un peu de céréales dans un grand paquet vide. Je suis sûr que l'image vous parle.
C'était une légende du doublage Astérix, le serpent K.A. dans le livre de la jungle. Jerry Lewis et tant d'autres jeux. Roger Carrel est mort, il avait 93 ans.
Et puis la victoire d'un Danois sur le Tour de France, 19e étape à Champagnole dans le Jura. L'arrivée est prévue dimanche sur les Champs-Élysées.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse marquée de 1,22% à 4 978 points.
Et puis la tendance météo avec vous Anissa, attention aux orages.
Oui, après la vague de fortes chaleur que nous avons eu ces derniers jours, ces dernières semaines. Les orages éclatent dans le sud-ouest et dans le sud-est avec un département placé en vigilance orange. Je vous détaille tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est au tour de Nice de vivre avec de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, les jardins et les plages de la ville. Fermeture également des bars à minuit et demi.
Pas plus de 1000 personnes non plus pour les grands événements avec prise de température à l'entrée. Vous, Frédéric Michel, eh bien vous êtes allé prendre la température de l'ambiance à Nice à l'issue de ces annonces.
Oui, et sur la grande plage de Galets, en contrebas de la promenade des Anglais, un peu de personnes portent le masque, mais la distanciation sociale semble respectée. J'ai vu aucun groupe de plus de 10 personnes. Ces étudiants sont venus profiter du soleil et de la mer et ils l'avouent, ils ont bien du mal à s'y retrouver avec toutes ces annonces.
Le 10, c'est quand même assez restreint, mais je pense que tout le monde ne va pas respecter. Ça va être dur de contrôler tous les groupes. Mais bon, après, ils les feront ailleurs, quoi. Si les plages sont interdites, ils trouveront un endroit ailleurs où le faire.
Des rassemblements de plus de 10 personnes interdits, des débits de boissons fermés après minuit 30 et la musique interdite. Stéphane ne comprend pas.
De toute façon, toutes ces mesures, il aurait fallu les faire dès qu'on était déconfinés. Hein. C'est un peu tard, hein. Puis ça change toutes les semaines.
Ce patron d'une salle de billard à Nice est lui résigné.
Nous, on a 20% du chiffre d'affaires qui part sur cette mesure. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, on fait avec.
Et il va falloir faire avec pendant longtemps. C'est ce que craignent de nombreux professionnels, mais aussi particuliers. Ce soir, par exemple, la fête des voisins à Nice a été annulée.
Et nous aurons bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert.
Et sinon, un nouveau cluster dans un EHPAD. Après l'Aveyron, c'est la Loire qui est touchée. 6 résidents de la résidence du Clermont à Roanne sont morts en quelques jours. 48 sont contaminés. Tout est allé très vite, Johanna Chabas.
Oui, c'est une contamination extrêmement rapide et massive. Un premier résident est testé positif en début de semaine dernière. Un dépistage généralisé est donc enclenché. Les résultats des tests tombent hier. 40 résidents et 8 membres du personnel sont positifs dans un établissement de seulement 65 lits. Et entre-temps, vous le disiez, 6 personnes sont mortes. Une salariée que j'ai contactée avoue que sur place, c'est très difficile pour toute l'équipe. Ils ne savent pas comment cette explosion de cas a démarré. Une de ses hypothèses, le coronavirus aurait pu entrer dans l'EHPAD lors des rencontres avec des familles, mais elle n'en a aucune certitude. Des mesures ont maintenant été mises en place pour éviter de futures contaminations. Les visites sont interdites. Chaque résident reste dans sa chambre. Les membres du personnel malade sont, eux, confinés chez eux. Des médecins et infirmiers de l'hôpital de Rouen viennent aussi apporter leur aide. D'autres prélèvements ont été réalisés hier, donc de nouveaux cas pourraient être découverts bientôt. Pour l'instant, la direction de la résidence du Clermont refuse de s'exprimer.
Merci Johanna Chabas.
Oui, c'est dans ce contexte que le président de la République a pris la parole. Face au Covid, nous n'avons qu'une chose à faire, nous battre, nous battre. Nous battre, a-t-il dit, sur les fronts sanitaires, économiques et sociaux.
Déclaration en effet d'Emmanuel Macron. C'était cet après-midi. Le chef de l'État était en déplacement à Condon, dans le Gers, dans le cadre des Journées du patrimoine. Au cas par cas, il faut regarder pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte, a-t-il ajouté.
Les suites du procès des attentats de 2015. Journée importante aujourd'hui, car journée consacrée à Clarissa Jean-Philippe.
Oui, cette policière municipale de 26 ans, tuée par Amédi Coulibaly à Montrouge. Sa mère, venue spécialement de Martinique, a crié sa colère ce matin à la barre. « Ma fille, elle voulait vivre », a-t-elle déclaré face au box des accusés.
Avec un témoignage très fort aujourd'hui, un agent de la propreté de la ville de Montrouge, il est venu à la barre témoigner. Il s'est retrouvé face à face avec le tueur. Il a survécu. Son récit a permis d'en savoir beaucoup plus, Justin Morin, sur Amédi Coulibaly.
Oui, grâce à une simple incompréhension. On ne peut pas croire, a répété l'agent d'entretien devant la cour, qu'un homme surarmé, équipé d'un gilet pare-balles, traîne comme ça, à Montrouge, à 8h du matin, sans avoir une cible. Et la seule cible dans le quartier, c'est l'école juive. Ce témoin a encore la mémoire fraîche sur ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, Amédi Coulibaly tire sur la policière Clarissa Jean-Philippe, mais aussi sur son collègue touché à la mâchoire. Ensuite, quand le terroriste pointe son arme dans sa direction, l'agent d'entretien lui saute dessus et agrippe le canon de la mitraillette. Dans sa tête, une phrase tourne en boucle. « Si tu lâches, t'es mort ». À voix haute, Coulibaly répond à ses pensées. « Tu veux jouer, tu vas crever ». Le terroriste finit pourtant par s'enfuir en courant sans sa moto. L'agent d'entretien constate alors la policière municipale à terre et son collègue défiguré, sans pouvoir s'empêcher de penser que le terroriste avait un autre plan en tête. À quelques centaines de mètres de là, les enfants de l'école juive Yagel Yaakov sont enfermés à l'intérieur du bâtiment. Le lendemain, Amédi Coulibaly attaque l'hypercacher et tue 4 personnes parce qu'ils sont juifs. Une preuve de plus pour l'agent d'entretien. « Je ne suis pas devin », conclut-il. Mais ce jour-là, ce qu'il s'est passé avec Clarissa Jean-Philippe a certainement permis d'éviter un autre carnage.
Et le procès durera encore plusieurs semaines. Merci Justin Morin pour ce compte-rendu.
Christiane Lambert, élue présidente de la COPA, le principal syndicat agricole européen, la présidente de la FNSEA en France, est la première femme à prendre la tête de cette organisation européenne. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez un si grand paquet pour si peu de céréales. Ça marche aussi pour les bonbons hein, ou pour d'autres produits.
Eh bien, l'organisation Foodwatch monte au créneau justement sur cette pratique à l'occasion du lancement de la semaine du développement durable aujourd'hui.
7 marques sont particulièrement visées, Virginie Salmen.
Eh bien, il y a par exemple un paquet de céréales et quinoa de chez Barilla rempli seulement à 40%. Les céréales crunchy de Carrefour, dont le paquet en plastique est vide à 50% selon les calculs de Foodwatch. Mais le produit qui contient le plus de vide, selon l'enquête, ce sont les dés de saumon de la marque Repère de Leclerc. 68% d'emballage sans rien dedans.
Là, en tant que consommateur, vous vous imaginez face au rayon saumon.
Camille Doriot, responsable des campagnes de l'ONG.
On voit tous les tranches de saumon qui ne vont pas jusqu'au bout de l'emballage, mais comme c'est cartonné partout, on le voit pas trop, et ben là, ces dés de saumon, ils sont particulièrement vides et c'est le record absolu. C'est une compétition à qui aura le plus gros emballage dans le rayon pour montrer son produit aux consommateurs.
La direction des magasins Leclerc n'a pas voulu commenter cette enquête. Foodwatch appelle les consommateurs à leur signaler d'autres produits partiellement vides pour faire pression sur les industriels. L'objectif, c'est de faire en sorte que les camions, les bateaux arrêtent de transporter 25% de vide. C'est l'estimation du cabinet Forbes Insight. Ça représente 60 millions de conteneurs par an transportés pour rien entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, soit l'équivalent de 5 ans du trafic aérien français.
Virginie Salmen.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, 18h10, c'est la suite du journal avec Carole Ferry. Alors son nom vous dit peut-être rien, vous l'ignorez sans doute, mais sa voix, alors là, tout le monde la connaît, Carole.
Oui, c'est celle de Roger Carrel dont on a appris la mort aujourd'hui, à 93 ans. Une légende du doublage français, Mathieu Charrier.
Ah oui, surnommé l'homme aux mille voix. Il faut dire que Roger Carrel, c'est lui qui a doublé pendant 47 ans Astérix, le petit Gaulois.
Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des prêtresses, des magiciens, des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des gâteux, mais nous n'avons pas dormi.
Côté alors, dessin animé, on lui doit aussi les voix de Mickey, Winnie l'ourson, Jolly Jumper, Milou, Idéfix ou encore le serpent K.A. dans le livre de la jungle. Roger Carrel qui était aussi la voix française.
Vous allez nous endormir.
C'est
là.
Ça, c'est ce que j'allais dire. Réveillez-vous. Qui était la voix française de quantité de comédiens. Alors Peter Sellers, Jack Lemmon, Jerry Lewis. Et puis Kermit, la grenouille aussi dans le Muppet Show, sans oublier le droïde bavard dans Star Wars C-3PO.
Lando Calrissian et ce pauvre Chewbacca ne sont jamais revenus de cet horrible endroit.
Et pourtant, Roger Carrel aurait pu devenir
que c'était la même voix.
Eh oui, non, mais quand on reprend toute la biographie, je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a des centaines. Alors, au début, il faut savoir qu'il aurait pu devenir prêtre, d'abord envoyé en pension dans un collège d'ici les Moulineaux. D'ailleurs, il imitait déjà à l'époque ses professeurs pour faire rire ses camarades. Il va intégrer le petit séminaire avec déjà cette voix, c'est vrai, qui n'a jamais vieilli. Il le racontait à Michel Drucker sur Europe 1.
Cette voix a tenu, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu certainement des phoniatres qui m'ont demandé un jour de venir dans leurs émissions. Comme ça, ils m'ont dit, parce que c'est assez curieux, que la voix n'ait pas du tout subi de tremblement.
Votre première vocation, c'était la prêtrise.
Oui, on peut se tromper. Hein. Vous savez, Sacha Guitry a dit, le théâtre est né de l'Église, elle ne lui pardonnera jamais. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, l'Église, ça devient un spectacle.
Et au naturel, sa voix, c'est vrai qu'elle est très différente. Hein.
Oui, alors on reconnaît quand même, ouais, notamment Astérix. Alors, Roger Carrel, c'est aussi un grand comédien devant la caméra. Il faut savoir qu'il a refusé deux fois d'entrer à la Comédie Française. On l'a vu dans les Arsène Lupin, on l'a vu dans différents films de Pierre Tchernia. Il a aussi joué Astérix en chair et en os dans les films. Et je trouve que le titre de son autobiographie résume toute sa vie. Je vous la cite. J'avoue, j'ai bien ri.
Bah écoutez, merci pour ce bon moment, Mathieu Charrier.
Merci. On part aux États-Unis maintenant, où la tempête Sally fait une première victime dans l'Alabama.
Les vents se sont nettement calmés, mais des trombes d'eau s'abattent sur l'Alabama et la Floride depuis deux jours, provoquant inondations et coupures d'électricité.
Oui, le climat et la météo qui font des ravages également en Grèce, où un ouragan frappe l'ouest du pays avec des rafales enregistré à 117 km/h.
Des conditions météo qui mettent en danger un bateau avec 55 migrants à bord, c'est au large du Péloponnèse. L'arrivée du Tour de France à Paris se rapproche, ce sera dimanche, 19e étape aujourd'hui, avec une victoire en solitaire d'un Nanois qui s'était déjà imposé à Lyon, Axel May.
Oui, Søren Krag Andersen a franchi la ligne d'arrivée ici à Champagnole en montrant deux doigts de la main gauche, comme le nombre de ses victoires sur ce Tour de France. Après avoir faussé compagnie au groupe de tête à 3 km de l'arrivée à Lyon samedi dernier, cette fois c'est à 15 km de l'arrivée que le coureur danois a accéléré. Il se trouvait alors dans un groupe d'échappés comptant des sprinteurs et il savait qu'il serait moins fort en cas d'arrivée groupée. Bref, nouvelle victoire de Søren Krag Andersen. Sa formation allemande Sunweb a aussi gagné avec l'impressionnant Suisse Mark Hirsch sur ce tour, ce qui lui fait 3 succès d'étape à égalité avec la formation néerlandaise Jumbo-Visma du maillot jaune Primoz Roglic. Dans la course au maillot vert, Peter Sagan a dit adieu à ses rêves de 8e trophée de meilleur sprinter, à moins d'un improbable retournement de situation. C'est l'Irlandais Sam Bennett qui va ramener ce maillot vert à Paris. À noter qu'aujourd'hui, Rémi Cavagna, auteur d'une longue échappée, a été récompensé du prix de la combativité. Demain, chrono en montagne à la planche des Belles Filles avec pourquoi pas une victoire de Roglic.
Merci Axel May de nous faire vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et la météo maintenant, tendance météo avec vous Anissa. Une vigilance demain samedi.
Oui, ça va être très agité effectivement. Ce soir et cette nuit d'abord, pour les prochaines 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans le sud-ouest, sur le Languedoc et les Cévennes, dans les prochaines heures, donc cette nuit, hein, vigilance si vous nous écoutez. Sur la façade atlantique, nous attendons de fortes averses avec un risque d'inondation, évidemment de la grêle et de fortes rafales de vent. La vigilance, vous en parliez Julien, c'est le département de l'Hérault qui a été placé en vigilance orange à partir de demain matin 10h. Là, sur les Cévennes, ce qu'on appelle les pluies cévenoles, nous attendons de forts orages, 2 à 3 semaines de pluie en 24 heures et du vent en rafale jusqu'à 80 km/h et un risque d'inondation parce que la terre est extrêmement sèche et il va pleuvoir très fort. Alors demain, la situation reste agitée sur le quart sud-ouest jusque sur le bassin méditerranéen avec donc l'Hérault en vigilance orange pour toute la journée et ailleurs, et bien là c'est un temps beaucoup plus calme. Finalement, c'est au nord de la Seine Oui. De la Normandie à l'Alsace, c'est là qu'il va faire le plus beau. Un temps sec, avec du nuage, quelques voiles nuageux, avec du soleil, quelques voiles nuageux, mais rien de très inquiétant.
Ça tombe mal, je vais au sud de la Seine ce week-end.
Ah, bah, c'est ballot. Dommage pour vous. Les températures, elles sont en légère baisse, avec 10 à 21 degrés demain matin, 20 à 24 sur le nord-ouest, 27 à 31 degrés sur l'ensemble du pays. Nous aurons 28 à Paris, 31 à Lyon sous les orages. C'est en baisse, mais ça reste au-dessus des normales de saison.
Bien, vous revenez tout à l'heure avec de bonnes nouvelles, j'espère. 18h30 et 19h. Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h20, il est très à la pointe sur les questions de dépendance et de grand âge, conseiller départemental PS de l'Essonne, auteur d'un rapport sur l'isolement des personnes âgées, remis il y a peu à Olivier Véran. Bonsoir Jérôme Guedj.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre remarqué intitulé « Plaidoyer pour les vieux » chez Grasset. Alors c'est une situation encore alarmante qu'on décrit en ce moment dans les EHPAD avec le Covid. Hein, 54 cas qui ont été détectés dans l'un des plus grands EHPAD de France, à Bourges, qui compte 619 résidents. Est-ce que cette fois encore, on est en train, comme pendant le confinement, d'abandonner nos anciens ?
Je ne le pense pas, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. D'abord, est-ce qu'on a abandonné les anciens pendant le confinement ? Il y a eu un flottement incontestable du fait de la pénurie de matériel, de la pénurie de tests, etc., qui fait que le gros des efforts a été mis, je crois que tout le monde l'a bien vu, et toutes les fédérations professionnelles le confirment, a été mis sur préserver le système hospitalier.
Et mais 23 000 morts quand même au niveau national mi-mai, la moitié dans les EHPAD.
C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement précautionneux sur ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD. Vous avez raison de le rappeler, les EHPAD en France, c'est 1% de la population française, il y a 600 000 résidents dans les EHPAD, et ça représente 50% des victimes du Covid. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un EHPAD, on est très vieux, très fatigué. On a 86 ans en moyenne quand on y rentre, on a 6 ou 7 pathologies. Et donc, le grand sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le Covid ne rentre pas. Ça a été le plus dur et le plus compliqué pendant le plus fort de la crise, parce que, je l'ai redit, il manquait de matériel de protection, parce qu'il n'y avait pas assez de tests. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on voit bien que le relâchement qui a pu exister de manière généralisée dans l'ensemble de la population, il n'a pas épargné. Moi, je parlais avec des directeurs d'EHPAD ces jours-ci. Il y avait les assises des EHPAD à Paris pendant 2 jours. Oui. Et ils me disaient, à plusieurs endroits, c'est même des familles qui, en voulant bien faire, parce que les personnes âgées leur avaient manqué, ne respectaient plus les gestes barrières à l'intérieur de l'établissement.
143 nouveaux clusters identifiés dans les EHPAD. 12 morts ont été recensés hier dans un EHPAD de l'Aveyron. Et on sent cette fois encore qu'il n'y a pas de stratégie globale pour protéger les personnes âgées. On prend des mesures quasiment quotidiennes de restrictions dans les villes. On le voit encore aujourd'hui à Nice. Le ministre Olivier Véran de la Santé prend la parole tous les 3-4 jours. Jean Castex également. Et rien sur les EHPAD. C'est sous les radars.
Non, alors ce qui se passe, c'est que si par stratégie globale, vous appelez une mesure uniforme, unique, la même partout dans le territoire,
un protocole.
Dans ce cas-là, ça ne peut pas exister parce que justement, le protocole qui existe aujourd'hui, il dit ce sont les directeurs d'établissement qui ajustent les mesures à prendre en fonction de la situation locale. Au regard d'une autre interpellation très légitime qui a été exprimée, les premières mesures qui ont été prises en France, les plus contraignantes, avant même le confinement généralisé, c'était les EHPAD. La première mesure, c'est le 11 mars, interdiction des visites des familles dans les EHPAD, puis le 28 mars, confinement en chambre.
Donc, ce qui est terrible aussi, c'était
les mesures les plus dures.
Les âgés.
Et donc, on est dans la conciliation de deux choses, un dilemme terrible pour les professionnels dans les EHPAD, les aides-soignants, les infirmières, les médecins. Comment on concilie sécurité ? Parce que s'ils rentrent, on va dire, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas assez protégé, et liberté, et puis aussi dignité, parce qu'en effet, ce qu'on appelle le désinvestissement, le syndrome de désinvestissement ou de glissement des personnes âgées, il est réel, il n'est pas quantifié aujourd'hui, mais tous les directeurs, toutes les familles vous disent, on a des personnes âgées qui se sont laissées partir parce que dénutries, parce que déprimées, parce que isolées. Et donc, on ne peut pas prendre une mesure radicale.
Vous êtes opposé, pour parler clair, à un reconfinement général des maisons de retraite ?
Oui, parce que abondance de biens nuit, il faut avoir cette espèce de dosage, surtout qu'on n'est pas dans la même situation. C'était nécessaire au mois de mars, parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, on a plus de tests. Il faut quand même mieux les prioriser pour les personnels des EHPAD. Franchement, on ne peut plus avoir les queues qu'on a pour se faire tester. Qu'on puisse les faire tester régulièrement. Moi, j'ai bon espoir que les tests salivaires arrivent le plus rapidement parce qu'ils permettent là, de le faire quasiment instantanément. Oui. On a le matériel. Il n'y a pas de problème de matériel comme il y en avait au mois de mars ou au mois d'avril. On a surtout des meilleures relations entre les EHPAD et tout le système hospitalier. C'était aussi une des grandes difficultés au mois de mars. C'est que l'hôpital était concentré sur lui-même et les personnes âgées avaient parfois du mal
à être
orientées.
Donc vous dites que la crise, du point de vue des EHPAD, est plutôt bien gérée en ce moment ?
Mais non. Alors, je dis qu'il faut serrer les boulons pour que, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, le virus ne revienne pas dans les établissements. On a plus de moyens de l'empêcher qu'on ne l'avait au mois de mars.
Parce que
mais attention, oui. Parce qu'on a ces alertes, 120 clusters dans des EHPAD aujourd'hui, avec une augmentation régulière partout
dans
sur le territoire.
Dans un endroit clos,
faut vraiment,
où le virus circule très rapidement.
S'il rentre le virus, même si les personnels me disent qu'on a plus de cas asymptomatiques qu'au mois de mars et au mois d'avril, mais on a quand même des populations très fragiles. Et surtout, dernier point, on a des personnels dans les EHPAD qui sont épuisés.
C'est précisément la question que j'allais vous poser, Jérôme Gage. Un manque structurel de personnel, de soignants pour faire face à cette épidémie avec des nouvelles tâches, désinfecter, tester. Le syndicat national des établissements de personnes âgées parle d'une situation critique. Et alors j'ai regardé les chiffres, vous allez peut-être me les confirmer. Je parle sous votre contrôle. En France, on compte 2,3 salariés pour 100 personnes de plus de 65 ans contre 5 salariés en moyenne pour les pays de l'OCDE. Oui, on est loin du compte.
Ça, c'est un chiffre global sur à domicile et en établissement. Dans les EHPAD, si on décline ces chiffres, on a en France en moyenne 6 personnels pour 10 résidents d'EHPAD.
Mais vu l'urgence, pourquoi on n'embauche pas ?
Alors que la moyenne, c'est 8 pour 10 dans les pays voisins. Et donc, ça, ce n'est pas le Covid qui le met en scène. On le savait déjà depuis des années. Il y avait eu des grèves en 2018 des personnels qui disaient « Donnez-nous des moyens supplémentaires, payez mieux les personnels pour que les métiers soient attractifs. » Rendez-vous compte, il y a des EHPAD qui n'arrivent pas à recruter du personnel. Et donc là, on est dans une situation où la crise a épuisé ces personnels qui franchement ont été admirables à beaucoup d'endroits. Les gens n'ont pas compté leur temps, ont pris les risques d'aller continuer à travailler.
Et qui dit, Jérôme Gage, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu au mois d'avril.
Parce que d'abord, c'est long. Il y a eu la crise du Covid. Il y a eu, on l'a déjà oublié, mais un épisode caniculaire quand même durant cet été. On rentre là avec à nouveau une reprise sur le Covid et aussi un autre facteur qui, lui, a lieu chaque année, mais dont on ne parle jamais, qui est la grippe saisonnière, qui tue, bon an, mal an, entre 6 000 et 10 000 personnes âgées chaque année.
Vous êtes d'ailleurs favorable à un plan massif de vaccination.
Moi, je pense que ce qu'il a manqué dans les annonces de Jean Castex ces derniers jours, c'était notamment pour alléger le système de santé et notamment dans les EHPAD, d'avoir une vaccination plus systématique et notamment pour les personnels des EHPAD et des hôpitaux, une obligation vaccinale. Je trouve un peu aberrant dans ce pays que des personnels soignants qui sont au contact des personnes âgées les plus fragiles n'aient pas d'obligation vaccinale. Et si on leur laisse la latitude de le faire, la réalité c'est que c'est moins de 40% des personnels qui se vaccinent, avec le risque que ça...
Combien manque-t-il aujourd'hui concrètement de personnel dans ces établissements EHPAD, maisons de retraite?
La Fédération hospitalière de France, à juste titre, dit qu'il faudrait qu'on recrute dans les années à venir entre 20 et 30 000 personnes par an pour converger progressivement vers les taux d'encadrement que j'appelais de mes voeux tout à l'heure. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a une crise du Covid qui a touché principalement les personnes âgées. Oui. Et quand le plan de relance arrive, il n'y a quasiment rien dans le plan de relance sur l'emploi dans le secteur. Ces emplois, vous savez qu'on a tous applaudi tous les soirs, ces emplois du lien, du care, de la bienveillance,
bien sûr,
du soin.
Tous les soirs à 20h.
Et qui typiquement, si on les revalorise en termes d'image, c'est le cas parce qu'on les a tous applaudis, si on les revalorise y compris en termes de salaire, et on a un vrai problème, je vous le dis tout à l'heure, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, peuvent constituer des emplois de proximité. C'est des emplois qui sont ni délocalisables ni substituables, qui permettent de faire de l'aménagement du territoire dans des villes et des villages. Parfois l'EHPAD est le seul employeur du territoire, ça permet, ou les services à domicile qu'il ne faut pas oublier, qui permettent de maintenir les personnes et de faire en sorte qu'elles puissent vieillir là où elles ont vécu.
Pour terminer, je vous pose une question très pratique. Vous savez qu'il y a des milliers d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent ce soir. On est vendredi, on a envie d'aller voir son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, peut-être dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Quel conseil vous donnez à tous ces gens ?
Faites gaffe. Faites vraiment gaffe. C'est-à-dire que votre discipline du quotidien, dans les gestes barrières, dans le port du masque, dans continuer à se laver les mains, etc., que vous devez avoir toute la semaine, dites-vous que c'est pour pouvoir aller voir sereinement à domicile ou dans un EHPAD un de vos proches, parce que là, ça ne pardonne pas. Donc vraiment, on a tous, pour éviter la reprise de la pandémie, cette responsabilité-là. Oui. Allez vous faire tester quand vous avez des signaux, mais continuez à aller voir les personnes âgées parce qu'il ne faut jamais oublier ça.
Le lien social est primordial. Sinon, c'est une autre mort à petit feu.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au nom du souci légitime de protéger les plus fragiles, les infantiliser, les déresponsabiliser. Il faut que dans les EHPAD, ils soient aussi associés à la prise de décision. Il y a des instances qu'on ne connaît pas, mais qui s'appellent les conseils de la vie sociale, qui doivent fonctionner, dans lesquelles les résidents eux-mêmes et leurs familles ont leur mot à dire. Les personnes âgées, ce sont d'abord des personnes jusqu'au bout.
Bien, merci Jérôme Gage.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec vous, Carole Ferry.
Les décisions n'ont pas traîné à Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes annonce l'interdiction des rassemblements de
plus de 10 personnes dans les parcs, jardins et plages de la ville. Fermeture des bars à minuit et demi, pas plus de 1000 personnes pour les grands événements avec prise de température. À Lyon, les nouvelles règles devraient être présentées demain au gouvernement et annoncées lundi au Lyonnais. Et puis nous aurons bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Toutes les explications à suivre dans le journal de 19h. Nouveau cluster dans un EHPAD après l'Aveyron, c'est la Loire qui est touchée. 6 résidents de la résidence de Clermont à Roanne sont morts en quelques jours. 48 sont contaminés. À l'occasion du nouvel an juif, les responsables religieux appellent à la plus grande prudence face au virus. Ils recommandent notamment de prévoir des inscriptions aux offices religieux. Mickey, Astérix, Jerry Lewis, Alf, c'est la même voix, celle de Roger Carrel, légende du doublage français. Il est décédé vendredi dernier, mais sa famille a choisi de l'annoncer aujourd'hui seulement. Il avait 93 ans, il a été inhumé dans la plus stricte intimité à Ville-Jésus, en Charente-Maritime.
Merci Carole Ferry, on se retrouve tout à l'heure pour le Grand Journal à 19h. La météo, avec Anissa qui nous annonce une vigilance orange, oui, dans les prochaines heures, donc prudence.
Et grande prudence, effectivement, c'est le département de l'Hérault qui est concerné. Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange à partir de demain matin, 10h, vigilance orange aux orages. Forte pluie donc attendue pour les prochaines heures dans les Cévennes. 2 à 3 semaines de précipitations en l'espace de 24 heures, accompagnées de fortes rafales de vent. Même scénario sur le sud-ouest avec des orages qui, dans la journée, vont arriver jusqu'à l'Auvergne, jusqu'au centre-Val de Loire et jusqu'à la vallée du Rhône. En gros, vous prenez la carte de France, vous mettez des nuages et des orages partout, sauf au nord de la Seine, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Là, il fait beau, avec quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures, 10 à 21 degrés demain matin. 20 à 24, ça baisse du côté de la Bretagne. Et 27 à 31 degrés sur le reste du pays. On est encore au-dessus des normales de saison.
J'aime bien parce que vous dessinez la carte de France avec vos mains quand vous en parlez.
Regardez sur europe1.fr, ça vaut le détour.
Merci Anissa, on se retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, l'heure du débat des grandes voix avec le club du vendredi. À mes côtés ce soir, Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match.
Bonsoir.
L'entrepreneur et essayiste Alexandre Malafaille. Bonsoir.
Bonsoir.
Président fondateur du think tank Sinopia. Et Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Un voile à l'Assemblée nationale qui provoque la discorde. C'était hier en commission d'enquête où la présidente de l'UNEF, Mariam Pouchetou, était auditionnée par des parlementaires vêtus d'un hijab. Colère des députés LR qui ont quitté la séance, suivie par certains de leurs collègues de la majorité, qui invoquent, disent-ils, une atteinte à la laïcité, sauf que, un voile, ça n'est pas interdit par la loi. Dans ce cadre-là, comme le rappelle la présidente de la commission, écoutez la séquence.
Madame la présidente, nous faisons le constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre assemblée. Les députés Les Républicains décident donc, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, de quitter cette audition.
Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible avec les valeurs qui sont les miennes. Je vais quitter cette réunion.
Merci. Alors vous allez me faire le plaisir d'entendre ma réponse. Aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées.
Voilà, les LR quittent la salle. La députée LREM qu'on a entendue, Madame Lang, quitte également la commission, et puis vous l'avez entendu, la présidente de la commission rappelle la règle, le voile est interdit dans l'hémicycle, mais pas dans le cadre de ces commissions. Alors si ce n'est pas contraire à la loi, et que ce n'est pas une entorse véritablement à la laïcité, dans ce cadre-là, où est le problème, Alexandre Malafaille ?
Le problème, c'est que quand on est invité quelque part, il est quand même de bon ton de respecter l'esprit du lieu. Voilà. Donc en l'occurrence, l'esprit du lieu de l'Assemblée nationale, c'est un esprit qui est républicain, il n'y a plus droit en France, et qui est laïque. On a effectivement fait une vraie séparation. Donc le bon sens qu'on recommande de pas chercher à faire de provocation.
On pourrait vous rétorquer que l'abbé Pierre a été député.
Non, mais absolument. Je vais y venir. Parce qu'effectivement, dans le cas particulier qui est là, je crois qu'on est dans un contexte où il faut éviter la provocation. Donc quelque part, la provocation a fait que son audition est peut-être passée au second plan, ce qui est peut-être dommage. Alors peut-être qu'elle n'avait rien à dire, et donc de fait, ça l'a arrangé, ou peut-être qu'elle avait envie de provoquer, même si elle s'en défend. Après, c'est vrai que bien sûr que le règlement de l'Assemblée ne l'interdit pas, mais je crois que comme beaucoup de règlements, comme beaucoup de cas en France, depuis qu'on est face à une problématique qui est lié aussi à la façon dont l'islam évolue en France. Eh bien, oui. On a souvent des règlements et des lois qui courent après la réalité. Et on a bien vu avec toutes les problématiques sur le terrorisme, il a fallu en permanence aménager les dispositifs. Je ne fais pas de lien entre les deux, mais il a fallu aménager les dispositifs. Et là, je pense qu'en fait, voilà, il va falloir peut-être régler cette problématique-là en modifiant le règlement de l'Assemblée et aussi en réfléchissant au cas. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à un religieux qui vient ? On a déjà auditionné André 23, qui était cardinal de Paris. Il est venu en habit de prêtre.
Non, mais c'est vrai qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Ça fait aussi parler parce qu'on est dans un contexte de séparatisme avec un projet de loi, avec un certain nombre de faits divers qui laissent à penser que oui, il y a un islam politique qui est à l'œuvre sur certains territoires en France et qui tente de prendre de l'espace. Est-ce que ça vous choque, vous, Virginie Leguet, pardon, un acte communautariste...
Non, ça ne me choque pas, Maurice.
Délibéré, délibéré, a dit la députée LREM, Madame Lang. Ça me va très bien, Maurice. J'accepte. Virginie Leguet.
Bon, alors, oui, on l'a dit, mais je le répète, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'interdit pas le port du voile pour ceux qui viennent et qui sont auditionnés à l'Assemblée nationale. La vice-présidente de l'UNEF, parce que c'est bien d'elle dont il s'agit, qui porte le voile de façon coutumière. Elle n'a pas porté le voile pour cette occasion, alors qu'elle ne le porte pas d'habitude. Elle le porte de façon coutumière.
Mais ce n'est pas la première fois que ça suscite la polémique. On y reviendra tout à l'heure.
C'est une spécialiste.
Qu'elle ait choisi de venir voiler, j'allais dire, elle est dans le rôle qu'elle veut jouer. Que les députés aient décidé pour des raisons qui leur appartiennent. Qu'elle n'avait pas à être voilée, c'est là où je trouve qu'il y a problème. Les députés sont là
pour
faire voter, respecter la loi. La loi est ce qu'elle est, ça leur convient ou ça leur convient pas. Ils n'ont pas à mettre en avant leurs sentiments personnels et les présuppositions qu'ils peuvent faire sur les arrière-pensées qu'aurait cette vice-présidente de l'UNEF. Et en plus, tomber dans cette provocation, si tant est que c'en est une, n'a fait que finalement donner de l'eau au moulin à tous ceux qui voulaient justement que cet événement devienne un événement commenté. Parce que depuis hier, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que commenter cet événement. Et si les députés avaient simplement choisi de respecter le règlement qui leur est imposé, auquel ils sont tous soumis, personne n'aurait parlé de cette audition et personne n'aurait parlé de cette jeune femme voilée qui aujourd'hui, finalement, ça sert ses affaires et ça
elle
sert les intérêts.
Elle est peut-être aussi derrière, c'est ce qu'a laissé entendre Ségolène Royal ce matin à la radio, qui dit « moi aussi j'aurais quitté la salle, j'aurais quitté la commission ».
Je vais vous dire ce que les uns ou les autres auraient fait selon leur conscience personnelle, personnellement je m'en fous.
Mais elle est peut-être le syndrome de quelque chose de plus important.
Peut-être, et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une personne qui fait, j'allais dire presque pas métier, mais qui fait pour habitude de porter voile, a été élue vice-présidente de l'UNEF. Qui sont ceux qui l'ont portée au pouvoir et qu'est-ce que ça dit de ce que deviennent en ce moment les étudiants ? C'est ça la question qui m'interroge et qui peut-être me fait un peu sème du trouble. Après, le comportement des députés, ils sont tombés dans un piège qu'on leur a peut-être tendu et ils n'auraient pas dû y tomber.
Bien, Emmanuel Duteil.
Moi, je suis relativement d'accord avec ce que dit Virginie. À partir du moment où la loi est comme cela, on n'a pas à la juger, on n'a pas à quitter la commission pendant ce moment-là. Et effectivement, elle aurait mis un voile exprès alors qu'elle ne le mettrait pas d'habitude. Là, on aurait pu parler d'un islam politique, on aurait pu décider de cela. Mais il faut voir que régulièrement... Elle a toujours son voile et elle s'était elle-même expliquée lors de sa toute première polémique, parce que je crois que c'est quand elle était à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises.
Il y avait un reportage Blanquer,
d'M6 à l'époque et ça avait créé un émoi énorme. Et elle s'était expliquée et pour moi c'est ça aussi qui est important. Elle avait dit c'est mon choix de le porter, et ce qui voulait dire qu'on ne l'imposait pas à avoir son voile. Et elle estimait à l'époque ne pas être dans une démarche de prosélytisme, si ce n'est que bon, bien évidemment c'était visible pour sa religion, mais je pense que c'est l'élément le plus important. C'est-à-dire que la loi est comme celle-là. Effectivement, je trouve que, comme disait très bien Virginie, si ça ne convient pas aux députés, bon, bah, à eux de faire passer un texte et de faire...
J'ajouterais, que feront-ils si des personnalités étrangères qui sont voilées dans leur pays et qui viendraient en France et qui seraient invités à l'Assemblée nationale, que feront-ils si ces personnalités-là rentraient dans l'Assemblée nationale ?
Les refuseraient-ils ? Ce n'est pas ça le sujet.
Je pense que si on recevait...
Il ne faut pas se lancer dans des choses subjectives et personnelles.
Alors, j'ai juste simplement partagé avec vous le tweet qu'a fait l'essayiste Caroline Forest, qu'on ne peut pas taxer d'islamo-complaisance. La laïcité n'interdit pas à une citoyenne d'être auditionnée avec son voile.
Exactement.
Cessez de l'invoquer à tort et à travers.
Voilà.
Par contre, le féminisme devrait pleurer à l'idée qu'un syndicat étudiant de gauche en soit là à promouvoir la pudeur pour les femmes et la bigoterie.
Je suis d'accord pour une fois avec Caroline Fourest.
Je vous laisse réfléchir
à ça.
Je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve dans quelques secondes. 18h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Il est 18h41 et on est toujours ensemble dans le studio d'Europe Soir avec le débat des grandes voix, le club du vendredi avec à mes côtés ce soir Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match, l'entrepreneur et essayiste Alexandre Malafaye et Emmanuel Duteil qui est en charge du service éco d'Europe 1. Alors on parle de cette polémique à l'Assemblée nationale qui provoque la discorde en raison du voile de la présidente de l'UNEF. Est-ce que Alexandre Malafaye portait le voile intégral de cette manière-là? Parce que ce n'est pas un petit voile, hein, c'est un hijab. C'est un voile assez conséquent qui couvre la totalité du visage, qui entoure le visage pour ceux qui n'ont pas vu l'image. Est-ce que c'est une forme de soft power et de prosélytisme d'une certaine manière?
En tout cas, ça peut être considéré comme tel. Et c'est pour ça qu'il y a des
réactions. Parce que le fond du sujet, c'est celui-ci.
Non, on est d'accord. C'est à quel moment l'islam devient politique, à quel moment chacun cherche à faire de l'influence pour marquer son territoire et quelque part grignoter des parts, entre guillemets, des parts de marché ou des parts d'influence. Après, pour en revenir sur ce que disait Virginie Leguet, en effet, si on reçoit un chef d'État étranger, un dignitaire étranger à l'Assemblée, qu'on l'invite et que ce dignitaire veut respecter, si je puis dire, ses règles et ses coutumes, pourquoi pas, je dirais, c'est une chose. Si on reçoit un dignitaire religieux, un prélat, un rabbin, un imam à l'Assemblée dans le cas d'une audition ou autre, je pense que compte tenu de leur représentation, est-ce qualité, je pense qu'ils peuvent venir avec la tenue qui va bien. Un simple citoyen, ça fait débat. Et quelque part, moi, je comprends que les députés provoquent une, entre guillemets, une crise.
Difficile de faire le tri comme ça, non, de façon
non, non, justement, c'est pour ça qu'il peut y avoir un citoyen. Non, mais il peut qu'il y ait un débat. Peut-être qu'effectivement, le règlement évoluera de l'Assemblée nationale et peut-être que les députés ont raison, finalement, dans le contexte actuel, de mettre les pieds dans le plat. C'est bien souvent dans les crises que les choses changent. C'est rarement en situation de paix que tout va bien et que, quelque oui. part, les choses évoluent. Quoi.
Mais quand même, j'insiste, parce qu'il y a derrière cette histoire de voile, l'idée du fondamentalisme. Alors, on ne peut pas jeter l'opprobre sur toutes les femmes voilées. Évidemment, chacun est libre de s'habiller. Et c'est ça aussi la laïcité. C'est le respect de la religion de tout à chacun. Donc, le respect donné à une femme de pouvoir porter le voile dans le cadre de la loi. C'est important de le rappeler. Donc, voilà, ne pas jeter l'opprobre. Mais y a-t-il derrière, quand même, des forces obscures à l'œuvre d'une certaine manière? On parle beaucoup d'un islam politique. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quand même un retour du religieux dans l'espace public, et notamment de l'islam, Virginie Leguet.
Mais on peut se poser plein de questions sur la démarche de cette jeune femme et puis la démarche de toutes celles qui portent le voile de façon constante. On peut se demander à quelle loi elles obéissent, si elles obéissent à la loi de la République dans laquelle elles vivent ou si elles obéissent à la loi de l'ordre. On peut se poser toutes ces questions-là.
À la loi de leur clan.
Oui.
Pour autant, moi, je redis, et je le redis, que justement, quand les choses sont complexes, quand on peut s'interroger sur la façon dont le voisin, la voisine s'habille, se comporte, il faut vraiment s'en tenir à un cadre légal. Ou alors, il faut modifier la loi indéfiniment pour la durcir. Mais tant que la loi est la loi, il faut la respecter. C'est le meilleur moyen, me semble-t-il, d'éviter ce genre d'interrogation, d'ébullition, d'effervescence et de dérapage. Il y a un cadre légal qui est celui que, dans lequel nous vivons tous, nous, tous.
Oui, oui.
Eh bien, si on le respecte tous, on sera solidaires ensemble. Si certains se disent « Ah, mais moi, ce cadre ne me convient pas. Moi, ce cadre, je n'entends pas le respecter parce que je suis à l'Assemblée nationale », ça ne va plus.
Donc indépendamment de l'Assemblée nationale, la multiplication du port du voile, qui est quand même un état de fait, ça ne vous pose pas de problème?
Si, je vous ai dit, on peut se poser des questions. Et on est en droit même de se les poser. Pour autant, y répondre n'est pas y répondre chacun selon ce qu'il pense. Ou alors, à ce moment-là, on est dans le royaume de l'irrationnel et du débordement émotif. Y répondre avec des textes de loi qui sont des textes qui sont communs à tous. Ces textes de loi communs à tous qui s'imposeraient à tous seraient le meilleur ciment en fait de notre République.
Je vous demanderai dans un instant pourquoi ça fait autant débat chez nous le voile par rapport aux anglo-saxons qui ont une culture du multiculturalisme assez différente de la nôtre.
Mais parce qu'on a moins l'habitude tout simplement chez nous en France de voir des personnes voilées. Quand vous allez en Grande-Bretagne depuis des dizaines d'années, les personnes portent le voile et quel que soit...
Mais nous on a la loi de 1905.
Bien évidemment, nous on a la loi de 1905. On a le fait que les fonctionnaires, par exemple, n'ont pas le droit d'être voilés. Tous les guichets publics, on n'a pas le droit d'être voilés. Donc, on est moins habitué, effectivement, à voir le voile.
Dans le service public, on n'a pas le droit d'être voilé.
On n'a pas le droit. Donc, dans l'espace public, c'est vrai que chez nous, c'est moins habitué.
Et après, c'est au cas par cas dans les entreprises. Hein. Ça dépend. Voilà. Quand on est en lien avec un public, c'est l'entrepreneur, c'est le patron qui décide.
Mais là, sur le cas dont on est en train de parler, c'est vrai qu'il faut aussi écouter éventuellement ce que... Elle dit, et on ne peut pas dire que là, dans les propos qui peuvent être portés ces derniers temps, moi j'essaie de regarder un peu ce qu'elle a dit ces derniers temps, il n'y a pas de prosélytisme musulman dans ce qu'elle est en train de dire.
C'est un symbole quand même, la présidente de l'UNEF, qui est un mouvement qui
bien sûr, mais,
plutôt
mais,
la libération.
C'est pas du tout que je vais à chaque fois être d'accord avec ma collègue de Paris.
Mais je suis ravie,
elle a été élue, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas...
Alors par contre, ça peut interroger.
Elle a été mise
pourquoi
en place
ils ont
là.
Choisi d'élire une vice-présidente qui affiche... ces choix-là.
Je voudrais vous faire écouter justement Jean-Michel Blanquer en mai 2018, vous l'évoquiez tout à l'heure Emmanuel, sur l'UNEF, après cette première polémique de cette présidente, elle est la présidente de l'UNEF, Mariam Pouchetou, qui est donc voilée.
L'UNEF, on était tous habitués à la voir féministe, défenseur de l'égalité femmes-hommes. Et donc on peut être un peu surpris par cela, évidemment. Mais c'est aussi le choix de l'UNEF de la porter à sa présidence et de consacrer ainsi une vision un peu communautariste de ce qu'elle est. Chacun sait que ça n'est pas ma façon de voir ce que doit être le syndicalisme étudiant. Donc bien entendu, c'est choquant.
Voilà, elle est vice-présidente évidemment de l'UNEF. C'est une vision qui dérange. Vous avez entendu le ministre de l'Éducation nationale, Alexandre Malafaye, Jean-Michel Blanquer. C'est une vision, une sorte d'illustration du communautarisme, voilà, qui s'invite à l'UNEF, qui est un syndicat étudiant, encore une fois, qui prônait jusqu'à présent plutôt la libération de la femme.
Oui, mais après c'est une question de composition. Qui est devenu l'UNEF? Qui y a-t-il à l'intérieur? Quels sont les messages que...
Oui, mais ça raconte quelque chose de notre société.
Ceci n'est pas anodin, mais le port du voile n'est pas anodin non plus dans une société comme la nôtre. Surtout, le problème, ce n'est pas tellement vraiment de s'attacher au port du voile en tant que tel. À la limite, que quiconque s'habille comme il le veut, moi, ne me pose pas de problème. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a soumission ou pas? Est-ce qu'on porte son voile de manière libre? Est-ce qu'en France, toutes les femmes qui portent un voile le font de manière libre?
Elle s'est expliquée là-dessus en disant que oui, elle le portait de façon libre.
C'est toutes les femmes qui sont interviewées.
Mais qu'est-ce que la liberté? Il nous reste peu de temps.
C'est quasi
non, mais là, très sincèrement, est-ce que
le contexte culturel, le contexte sociétal peut avoir une incidence sur le libre arbitre?
Votre quartier, votre famille, votre tribu, entre guillemets, votre clan qui vous impose, si c'est ça, tant qu'il y aura ce type de contraintes et d'obligations de soumission pour la femme, il faudra se battre pour que ce soit un choix libre et assumé. Et
auquel cas, il y aura plus de problème. C'est quand même un peu difficile, c'est-à-dire que parce qu'on porterait le voile de façon totalement, on serait soumise et on n'aurait pas le droit d'être élu d'un syndicat étudiant. C'est-à-dire que c'est quand même un sacré procès d'intention quand, de façon sous-jacente, on pourrait faire. Elle a sûrement ses propos ne sont qu'à elle, ce genre de choses. Elle n'est pas venue humilier la République par les propos qu'elle a tenus. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de l'entendre. Ce qui est marrant, c'est sa démarche intellectuelle. Elle donne très peu d'interviews, elle veut très peu s'expliquer sur ce genre de questions. Moi, pour être très honnête, je ne sais pas exactement ce qu'elle pense. Donc, ça, c'est très compliqué.
Et on ne retient que ça.
Mais on ne retient que ça.
Le voile, une obsession française, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est
évidemment
L'éternelle confusion entre l'islam et l'islamisme. Et franchement, il faut bien faire la distinction. Il faut pas.
18h48, on se retrouve dans quelques secondes et on parlera de ces nouvelles mesures sanitaires. Parce que vous nous aviez dit la semaine dernière, Alexandre Malafaye,
oui, que l'épidémie allait se terminer.
On est en queue de comète. Hein. Pas tout à fait, à tout de suite.
Ici même, à ce même micro.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix du vendredi, Virginie Leguet de Paris Match, l'entrepreneur essayiste Alexandre Malafaye autour de moi et Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. On parle maintenant de ces nouvelles mesures restrictives pour endiguer la circulation du Covid-19. Après Bordeaux et Marseille, c'est Nice qui annonce un tour de vis.
Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Concernant les débits de boissons, ceux-ci devront désormais être fermés entre 00h30 et 6h du matin. La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique proscrite après 20h. Toute diffusion de musique amplifiée sur la voie publique seront interdites. Enfin, la fête des voisins, et vous le savez, est annulée sur tout le territoire de la commune.
Bon, Alexandre Malafaye, je ne veux pas vous embêter, mais la semaine dernière, à ce même micro, vous disiez on est en queue de comète de l'épidémie. Force est de constater, ça nous fait
que
pas sourire, mais
que la comète est longue.
Oui, 207 décès depuis le début de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes et notamment dans les EHPAD. Et le nombre de morts qui, pour la première fois, là, au niveau national, repart en hausse depuis 48 heures. L'heure est grave.
Oui, l'heure est grave, c'est clair. En tout cas, elle est préoccupante. Les chiffres parlent, on verra dans la durée. Moi, je reste malgré tout optimiste, mais je pense que la stratégie n'est pas bonne sur plusieurs points. Moi, je m'interroge, voilà, je me pose des questions. Je me pose la question sur la stratégie du masque obligatoire partout en tout temps. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument la meilleure des solutions, on pourrait y revenir.
Mais ça sensibilise la population.
Oui, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un effet pervers induit par le fait que les gens se recontaminent en permanence. Voilà. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez.
Bien.
Après, je regrette effectivement que voilà, le modèle français au niveau hospitalier soit à ce niveau de saturation quasi permanente, ce qui fait que dès qu'on reprend un flux d'activité normal, dès qu'il y a une petite crise, parce qu'il y aura toujours des petites crises, on est en mode saturation. Et puis le troisième point, pardon, mais j'ai encore quelqu'un autour de moi ces derniers jours, un jeune qui a été attrapé par le Covid. Et très sincèrement, la stratégie depuis 9 mois au niveau médical, de dire restez chez vous, prenez du Doliprane et attendez que ça passe ou pas. Et je pense que très sincèrement, c'est une très mauvaise stratégie. Mmh. Ça, c'est le pire de la stratégie qui a été développée. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on mette tous les médecins et toutes les bonnes âmes de ce pays en matière scientifique et en matière médicale, y compris le professeur Raoult, pour essayer de soigner dès le départ pour éviter que ça ne dérape. Ça, pour moi, c'est un point central.
On se répète un peu de semaine en semaine, Emmanuel Duteil, mais on sent que ça tâtonne encore. À Nice, on annonce voilà, pas d'alcool après 20h, la fin des apéritifs, mais c'est des petites mesures. Soit on y va vraiment.
Mais on ne peut pas y aller vraiment. Si on y va vraiment, on reconfine. Et là, vous arrêtez l'économie du pays. Et déjà, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une énorme inquiétude de la part du monde économique, au gouvernement. Ils sont paniqués à l'idée déjà de ces petites touches. Pourquoi ? Parce que dans pleine zone, quand vous faites ça à Bordeaux, quand vous faites ça à Lyon, vous ne faites pas ça au fin fond de la campagne où il n'y a pas grand monde, là, vous. C'est des zones économiques extrêmement denses où on limite les envies des gens d'aller au restaurant, limite les réunions, limite donc la consommation, limite la vie économique. Et je peux vous dire qu'un paquet de patrons aujourd'hui sont paniqués à l'idée d'avoir un cas contact chez eux. Ça brouille et ça perturbe toute la vie économique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est obligé de se rendre compte que l'épidémie est en train de repartir. C'est un fait important. On a quand même des dizaines de morts maintenant par jour. On n'est plus à 1, 2, 3, 4, 5 comme ce qu'on avait connu pendant des semaines. Et donc, il y a une inquiétude forte et on sent... Je ne sais pas si vous avez écouté la conf de presse de Véran hier soir, d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ils essayent de colmater les brèches, mais le bateau, il prend un peu l'eau de toutes parts.
Virginie Le Guay.
Je pense que la guerre éclair dont peut-être rêvait Emmanuel Macron est en train de se transformer en guerre d'usure. Et cette guerre d'usure, il va falloir la mener encore plusieurs mois. Et si on ne veut pas reconfiner et arrêter l'économie, ce qui lui portera...
Je crois que c'est exclu, ça. Hein,
oui, mais alors du coup, il faut bien accepter l'idée que selon les territoires, selon les villes, selon les populations de ces villes, les mesures seront différentes. Et que ça va être un peu le bordel, ça va être la cacophonie. Les uns diront une chose, les autres diront une autre. Mais ça sera comme ça. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on reconfine et tout le monde rentre chez soit et c'est terminé et c'est la même règle pour tous, soit chacun devra s'adapter. Et effectivement, à Nice, où il y a un tiers de la population qui a plus de 65 ans, c'est une ville extrêmement touchée. Les gens, parce que je le rappelle, parce qu'on oublie, mais on guérit de cette maladie à 97%.
Oui, oui.
Et ceux qui sont touchés et qui ont des formes graves sont ceux qui ont plus de 65 ans. Oui. Et ce sont ceux-là qui vont à l'hôpital.
Et je pense que tout ça est quand même le résultat du fait que sûrement collectivement, et on peut ne pas s'en extraire, en tout cas moi le premier, qu'on a repris peut-être un peu trop normalement notre vie. À un moment, parce qu'on a cru effectivement que l'épidémie n'était plus là.
Moi je repose la même question que je pose à chaque fois. Pourquoi ne pas confiner une partie de la population? C'est celle qui est la plus exposée, les plus de 65 ans par exemple, en leur disant vous êtes à la retraite, ne sortez plus de chez vous.
Mais attendez, ça voudrait dire aux plus de 65 ans, vous restez chez vous, mais surtout vous ne voyez pas vos enfants, vos petits-enfants, parce que c'est ceux-là qui vous ont contaminé.
Mais là aussi, toute la vie économique.
Et moi, je me permettrais un tout petit message, peut-être d'espoir. Tout le monde s'est mélangé pendant 2 mois. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de malades qu'il n'en a. Il y en a finalement plus, bien sûr. Le virus recircule, bien sûr, parce qu'il est très contagieux, mais ce n'est pas encore la cote d'alerte. Ce n'est pas la cote d'alerte que nous avons connue en mars et avril. Et peut-être, elle ne reviendra jamais, cette cote d'alerte. Mais il y a malades, et les malades qui développent des formes graves sont effectivement souvent dans des risques de vie qui sont tout à fait graves, c'est vrai.
Merci Isabelle. Non, Virginie. Non,
je vous en prie, Baudouin.
C'était fait exprès cette fois-là. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec le journal de 19h et juste après on ouvre le club des idées tous à vélo. Seriez-vous prêt à lâcher votre voiture pour une bicyclette flambant neuve, même à la campagne? On en parle, à tout de suite.